I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous sommes le 15 juillet, j'ai couru 3,5 km. Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti, maintenant. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de sport, de lifestyle sportif, de bien-être, de bonheur, à courir, à faire du mouvement, à bouger, à retrouver la ligne, mais aussi une autre image de nous-mêmes, une autre image de nos projets, de ce que nous voulons faire. Vous savez, hein, si vous écoutez tous les épisodes de ce podcast, que je cours après mon rêve d'enfant qui était de devenir sportif professionnel, de vivre du sport, de bouger toute la journée. J'ai jamais rêvé dans mon enfance d'être derrière un bureau, faire du marketing, faire de la communication, des choses comme ça. Non, ce qui me faisait vibrer quand j'étais gamin, c'était de pouvoir courir, de bouger. Et bien sûr, en grandissant, on oublie ses rêves. Et moi, à 40 ans passés, j'ai décidé de courir après ce rêve à nouveau. Et je vous embarque dans cette aventure. Alors, elle a commencé par le biais du sport, de comment je me suis remis au sport, comment je me suis mis à courir, aussi comment j'ai mieux mangé, comment j'ai mieux dormi, comment tout ça se construit, comment tout ça s'assemble. Et ce que je partage aujourd'hui, c'est exactement ça. Alors, je vous remercie tous de suivre ces aventures. Je vais remercier d'abord Eric et Damien qui sont les nouveaux patrons. C'est-à-dire que ce sont tous les derniers qui sont venus s'inscrire sur Patreon, la plateforme qui permet de soutenir le podcast. Vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode. Ça vous donne droit à télécharger les épisodes sans la publicité. Et puis en plus, vous avez tous les lundis matin mon journal privé d'entraînement dans lequel je vous donne ce que j'ai fait comme séance, mes sensations, mes rendus, je vais plus en profondeur. Voilà, ça dure environ 20-25 minutes à chaque fois, tous les lundis. Et puis, je donne aussi des petites perspective sur ce que je suis en train de construire, des avant-premières, des choses comme ça. Et donc ça, je réserve à ceux qui m'aident, tout simplement, à financer le podcast et à financer ma vie via Patreon. Donc vous faites patreon.com/km42 et vous tombez sur la page qui vous explique tout. Et puis si vous avez besoin d'un petit peu d'informations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Vous savez que vous me retrouvez très facilement sur les réseaux sociaux, @BertrandSoulier, un petit peu partout et notamment sur Instagram. Je voudrais remercier aussi ceux qui me laissent des commentaires, notamment des commentaires sur Apple Podcast. Vous savez que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup le podcast à être découvert. Ce qui aide aussi beaucoup le podcast à être découvert, c'est quand vous me faites des petites dédicaces dans vos stories Instagram, par exemple, que vous dites « Ah, j'écoute KM42 », par exemple, vous mettez le hashtag KM42 podcast, ou alors vous me citez directement @BertrandSoulier, vous me taguez, par exemple, où vous l'écoutez, quand vous l'écoutez, quels sont vos ressentis, etc. Vous voyez tous ces petits messages comme ça, toutes les petites dédicaces que vous faites dans vos stories. Mais c'est vrai que Apple Podcast, ça nous aide aussi, quand on fait du podcast, à monter dans les classement, être découvert et montrer à des gens qui découvrent le podcast que ce qu'on fait est intéressant. Alors je vous remercie pour le temps que vous prenez et aujourd'hui je vais remercier Gisèle qui m'a laissé un message vraiment super super sympa. Merci Gisèle, elle dit: je conseille ce podcast à tous les coureurs amateurs, débutants ou confirmés. Bertrand nous y livre son parcours, ses conseils et ses impressions avec une grande authenticité et beaucoup de bienveillance. Je cours depuis quelques mois et ce podcast est une mine d'or pour moi et il me conforte définitivement dans mes décisions d'avoir sauté en dehors de ma roue du hamster. J'y trouve des réponses à tout, la foulée, l'entraînement et les récits de coureurs plus avancés que moi me font rêver et ne font qu'accroître ma motivation. Bravo Bertrand. Merci, merci et bravo Gisèle. Bravo d'abord d'avoir sauté de ta roue, d'avoir... le hamster s'évade. Vous savez, c'est la notion du Hamster's Running Club et je vais vous en reparler très prochainement, mais j'ai commencé à en parler puisque je commence à ouvrir les portes du club, de la communauté. Donc je vous en reparlerai, je ferai peut-être un épisode vraiment dédié à ça, mais déjà sachez que les portes s'ouvrent pour venir découvrir une communauté. Et la bienveillance, merci Gisèle de me parler de bienveillance, parce que vous allez voir que dans les sujets qui sont abordés aujourd'hui, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui a manqué un peu de bienveillance. Soyons honnêtes. Mais avant, de quoi je vais vous parler? Parce que je vous ai proposé une foire aux questions, en fait. Alors, j'ai posé la question à divers endroits. J'ai eu des questions qui m'arrivent des fois par message privé. J'ai mis un petit sticker sur Instagram pour demander si vous avez des questions particulières. J'ai eu des messages qui m'étaient envoyés par mail, des messages privés, des gens par WhatsApp, etc. Enfin, vous voyez, tout un ensemble de communications de ce type-là. Et donc, j'ai fait ma petite sélection de questions. Et il y a des questions qui sont alimentation, il y a des questions qui sont sur l'entraînement en lui-même, hein, sur un conseil vraiment vraiment du débutant, comment on débute. Et puis il y a une question sur les courses virtuelles et puis il y a un message pas sympa au milieu et je vous le garde à la fin parce que je pense qu'il fait tout simplement écho à tout ce que je fais dans ce podcast et tout ce que je partage avec vous et j'aimerais vraiment donner ma réponse et je vais vraiment, ça me tient à cœur parce que j'aurais pu le prendre dans les dents, il aurait pu me faire mal, mais en fait je me dis je suis au bon endroit et je fais la chose qui me tient le plus à cœur et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, on va attaquer sur les questions. Alors la première question me vient de Nina qui me dit j'aimerais savoir si tu as remarqué des corrélations entre ton alimentation et tes perfs et aussi tes collations pro, post, course, tes ravitaux. Alors, pour répondre à la question, oui, j'ai surtout remarqué des corrélations dans les contre-performances. C'est-à-dire que peut-être que j'ai fait plus attention à ça, mais c'est vrai que j'ai par exemple des souvenirs d'avoir une mauvaise alimentation, une prise de mauvais aliment au mauvais moment, ou alors tout simplement d'un aliment au mauvais moment, qui ont provoqué certains désagréments. Alors je pense à un trail nocturne qui était le trail de Blanza. Si vous êtes en Auvergne, il y a un trail nocturne à Blanza, pas très loin de Clermont, et j'avais mal au ventre. En fait, c'est un trail qui faisait 13 km. Il m'a paru long, et c'est dommage parce que le parcours est super sympa, etc. Mais en fait, dès le 3e ou 4e kilomètre, le ventre s'est mis à gargouiller. J'avais mangé trop près de la course, j'avais mal mangé, j'avais pas mangé ce qu'il fallait. C'était l'un des meus premiers trails nocturnes, peut-être le 2e que je faisais. Et en fait, j'ai toujours un problème sur les courses qui sont le soir, c'est que je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé la formule pour m'alimenter parfaitement bien. Vous voyez, trouver le à quel moment il faut manger, est-ce que je fais une collation, etc. Quand ce sont des départs autour de 19h, 20h, 21h, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette question-là. Entre qu'est-ce que je dois manger à midi, est-ce que je fais une collation, comment je mange, est-ce que je mange, comment ça va tout ça se digérer, comment ça va s'évacuer. Donc j'avoue que sur ces courses de soir, pour l'instant, je suis pas très performant. Hein. La corrida de la Saint-Sylvestre, par exemple, j'avais eu un peu le même genre de souci de pas trop savoir comment manger. Puis finalement, au bout d'un moment, on est un petit peu en manque d'énergie. Sur le marathon, c'est un autre cas. Je pense que j'ai mangé trop sucré au départ. J'ai fait un bilan hein, de ma course là-dessus. Je pense que j'avais mangé trop sucré dès le départ, trop sucré dans mon petit déjeuner du matin. Probablement pas assez de pâtes. Et puis on ajoute avec des facteurs de fatigue, etc. Hein. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que probablement il y a eu et c'est sûr qu'il y a eu un truc qui cloche parce que quand on prend le mur, c'est qu'il y a un truc qui cloche, hein, c'est que la préparation n'a pas été aussi bonne que celle que l'on pensait qu'elle serait et donc c'est comme ça. Et puis sur mon dernier trail, je manquais d'énergie au kilomètre 20 sur 24 km, c'est-à-dire que je courais avec une copine du club et au bout d'un moment je l'ai vu partir et je pouvais plus m'accrocher et donc à ce moment-là, bah oui, comment on fait pour trouver de l'énergie pour continuer? C'est toutes les questions qui viennent des ravitaux. Après, est-ce que j'ai constaté par exemple sur des courses, sur des performances, le fait d'avoir bien mangé, d'avoir mangé comme il faut, m'apporter un surplus? Pour l'instant, je suis trop... j'ai pas assez de recul en fait dans le temps pour le dire. Ce que je peux dire vraiment, c'est avant les entraînements, maintenant je suis très méfiant sur un truc, c'est que les journées d'entraînement, je fais beaucoup plus attention à mon alimentation. À une époque, j'étais du style le gars qui disait bon, bah ce soir je vais courir, donc je peux manger du chocolat toute la journée. Ce soir je vais courir, je peux manger une pizza à midi, je peux manger des pâtes, etc. Lourdes, etc. Ça va passer. Et en fait, non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que même si j'entraîne le soir à 18h, c'est pas parce que si je mange un hamburger à midi, l'entraînement du soir il sera pas bon. Et donc j'ai une tactique, une astuce, un conseil qui est plutôt de dire que le jour où on s'entraîne, et surtout des entraînements de piste, de VMA, de vitesse, etc., qui sont des entraînements qui sont lourds et sur lesquels on a besoin d'être bien en forme, si on veut vraiment en profiter à fond, il faut soigner son alimentation sur la journée qui précède. Et donc, ça commence à faire un bon petit déj, ça fait un repas qui est midi, qui est pas trop lourd, je vais pas me goinfrer, une collation dans laquelle je vais pas dire je vais manger du gâteau en pagaille ou quoi que ce soit, non, plutôt manger, par exemple, une petite pâte d'amande ou des choses comme ça avant, mais vraiment, je fais attention à ça. Ça m'évite les désagréments pendant l'entraînement d'avoir mal au bide, hein, d'avoir un ventre trop chargé dans lequel ça va secouer dans tous les sens et dans lequel je vais avoir mal au bide. Ça m'évite aussi d'être en manque d'énergie, ça me permet de maximiser l'apport de l'entraînement et donc ça m'aide moi à progresser mieux et plus vite hein, et plus fort en tout cas c'est le sentiment que j'ai et donc ça c'est le retour que je fais au bout de on va dire 3 ans, hein, 3-4 ans de course comme ça. Pour moi, c'est la vision que j'ai vraiment de l'alimentation par rapport à la course. Bien sûr, moi, j'ai perdu 27 kilos. Bien sûr, moi, j'ai mis en place des stratégies. J'ai des stratégies de lutter contre la gourmandise, de faire attention aux équilibres globaux de la journée, de pas faire de pas se goinfrer, de faire attention au sucre, à plein de choses, etc. D'ailleurs, on va en reparler juste après. Mais vraiment, hein, ça fait sur la course à pied, je crois que il y a encore un domaine qui serait plus pointu pour ceux qui sont vraiment des qui veulent aller vraiment dans le domaine très pointu. Mais pour moi, en fait, je suis toujours dans la notion de me dire, quand on fait 90% de ce qu'il faut, quand on mange comme il faut, 90% du temps, etc., finalement, il faut d'abord les faire. Avant de chercher le petit point qui permet d'améliorer, est-ce que je dois manger ça, est-ce que je dois prendre ça, etc., je préfère d'abord, moi, me concentrer sur le gros 90% qui m'a permis, moi, de retrouver la ligne, de retrouver la forme, de retrouver l'énergie que j'ai actuellement et qui me permet, moi, de courir. Alors, après, bien sûr, eh ben, il y a des éléments qui rentrent en jeu. Par exemple, je fais des tests, je note, hein, ce que je mange, ce que je mange pas. Les jours où j'ai couru, et par exemple, il y a des jours où j'ai mal au ventre le matin, quand je vais courir le matin, où je suis obligé de m'arrêter en pleine forêt pour faire un gros caca, soyons honnêtes, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu un jour, j'ai eu mal au ventre au centre, j'étais à 15 bornes de la maison, il faut rentrer, etc. Là, je note, je dis, qu'est-ce que t'as mangé la veille? Et souvent, ça, c'est des jours, lendemain de repas de famille, ça peut être un jour de, un lendemain de cheat meal, vous voyez, des trucs comme ça. Pour ça, par exemple, que si on devait manger un hamburger avec des frites, moi, je préfère les manger le dimanche soir, alors je me suis entraîné le dimanche matin, plutôt que de les manger le samedi soir, alors que le dimanche matin, il va falloir y courir, parce que je sais que là, ça demande un arrêt contre un arbre. Vous voyez, c'est le genre de choses comme ça. Et puis, après, il faut dire aussi que les études de naturopathie de ma femme m'aident à mieux comprendre, parce qu'elle apprend des choses, elle apporte de l'information. Elle suit aussi une formation sur l'alimentation. Elle travaille avec quelqu'un qui fait une formation sur l'alimentation et vraiment qui est très pointue. Elle m'apporte aussi des éléments là-dedans. Ça me permet, moi, de progresser. Moi aussi, je lis beaucoup de choses là-dedans. Donc, ça me permet d'apprendre des choses. Donc, comme je le disais, j'ai appris à éviter des aliments trop lourds. J'ai appris à éviter des aliments trop difficiles, trop compliqués à digérer pour l'organisme, surtout les jours où on va courir ou la veille des courses. Je pense notamment à la viande rouge, par exemple. C'est vrai que la viande rouge, il faut un sacré effort pour le corps pour le digérer. On m'a posé la question, je suis pas végétarien, je suis pas végétalien, végétarien ou quoi que ce soit. On pourrait dire que je suis un flexitarien, on peut dire que je mange. Surtout, ce qui se passe, c'est que j'ai diminué ma dose de protéines animales pour augmenter la dose de protéines végétales, parce que j'ai le sentiment que je suis mieux. Mais ça veut pas dire que c'est parfait, notamment parce que les légumes, les fruits, etc., il y a aussi une décomposition, il y a aussi des contreparties qui sont pas toujours très agréables. Il faut trouver l'équilibre. Par exemple, il y a certains fruits et légumes, avant une course, ça passe pas. Alors, il y a des gens, par exemple, moi j'avais discuté avec quelqu'un qui a couru à très bon niveau, je crois même. D'ailleurs, il faisait partie d'une équipe qui était dans les tops mondiales. Un matin, on faisait une reconnaissance et on demande quelqu'un lui demande c'est quoi quel conseil pour courir avant l'entraînement. Et lui dit moi je prends un café et une pomme. Moi, si je prends un café et une pomme le matin avant d'aller courir, mon ventre, il est en vrac. Voilà. Mais ça, c'est son truc à lui. Pour lui, ça fonctionne comme ça. Le conseil que moi, je donne souvent, en fait, c'est de faire beaucoup de tests, de voir toujours ce qui marche ou ce qui marche pas. Moi, après, il y a un truc sur lequel je suis pas forcément un bon exemple, c'est que moi, je cours à jeun. Par exemple, là, le mois de juillet, j'ai couru tous les matins, et tous les matins, j'ai couru à jeun. Et hier, j'ai fait 18 km à jeun, mais on va en reparler, avec 500 mètres de dénivelé positif. Mais je conseille pas forcément de le faire à tout le monde. Moi, c'est-à-dire que j'ai une grande habitude. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est le meilleur ou pas, je suis pas certain. Et ça veut dire peut-être que sur le mois d'août, je vais faire un test où je vais dire tous les matins quand je vais courir, je vais prendre un laitage avant ou je vais manger une petite compote ou quoi que ce soit pour voir si sur ma construction musculaire, sur ma récupération, il serait pas mieux par exemple que je mange plutôt que de faire des courses à jeun. Voilà, c'est une question, il y a tout un tas d'éléments comme ça, et donc je progresse tous les jours, mais voici les éléments tels que moi je les vois. Ensuite, sur la notion des collations. Alors, pour les courses du matin, moi j'ai des trucs qui marchent bien, comme le riz au lait maison, c'est-à-dire que la veille je fais un riz au lait maison avec du riz, du lait d'amande ou d'avoine, enfin du lait végétal souvent. Dedans, je rajoute un œuf et je mets du sucre, sucre rapadura, sucre roux, des sucres comme ça, un petit peu, qui sont pas. Nous, on a plus de. Tout est complet, quoi. On n'a pas de. C'est du riz complet ou semi-complet. C'est des pâtes complètes. C'est du sucre pas raffiné, mais du sucre complet, sucre rapadura, des sucres qui sont moins traités, etc. Et puis, je fais aussi des pâtes à la cannelle, par exemple. J'ai essayé, ça marche pas mal parce que c'est sucré. Et moi, le matin, salé. Oui, alors il y a un truc qui marche bien, que j'aime bien. ce sont les œufs brouillés par exemple le matin, mais je les prends pas avant d'aller courir, je les prends après avoir couru. Le fromage blanc aussi passe pas mal avant les courses, mais dans ce cas-là, je l'espace par exemple le matin de course, si j'ai une course à 9h. Prendre un petit déjeuner à 7h avec du fromage blanc, avec même dedans un petit peu quelques céréales, quelques flocons d'avoine, etc. Moi, ça passe bien. Franchement, honnêtement, ça passe bien. Faut pas trop charger la baraque non plus. Des biscottes ou des espèces de pain. Alors, j'évite le pain complet, par exemple. Mais c'est le seul cas où j'évite le pain complet, ou alors je prends en biscotte avec de la confiture, ça passe bien. Même avec du beurre cacahuète, ça passe bien, faut pas trop abuser. Vous savez que sur mon blog j'ai des recettes d'Energy Ball aussi, dont j'ai souvent parlé, hein. Ça fait partie de tout un tas de petits trucs que j'ai, mais quand je vais faire des sorties longues l'été, je pars avec des Energy Ball que je fais à la maison, avec dedans il y a des dattes, il y a des abricots, des choses comme ça. Et donc ça, pour moi, c'est pas mal. J'ai toujours aussi une barre d'amande pendant, par exemple, avant une course. Je prends toujours une barre d'amande avant, pendant l'échauffement. Et sur des courses, même d'ailleurs, hein, par exemple des courses de 5 ou 10 km, j'ai même pris des trucs plus sucrés, mais vraiment plus sucrés, comme des Mars. Le truc, c'est de charger la bête en sucre parce que quand on va courir sur de 5 ou 10 km, on va courir vite et donc on va pas aller taper dans les réserves, on va taper dans les sucres rapides et donc on peut charger en sucre rapide. Il y en a, j'ai vu des adeptes du Red Bull juste avant, il y en a qui boivent alors du coca pas trop mais des trucs sans bulles quoi bien sûr mais plutôt vous voyez de l'Oasis, j'ai vu certains boire etc enfin voilà moi après ça me laisse une espèce de goût sucré dans la bouche pendant toute la course, j'ai l'impression que j'ai soif même sur 5 bornes donc c'est pas l'idéal pour moi. Par contre oui, un truc un peu sucré, une barre un peu sucrée et tout, oui ça passe très bien. J'ai essayé aussi des barres d'effort, des choses comme ça. Mais en fait, la barre d'amande gerblée ou la pâte de fruits toute simple, elle marche aussi bien pour moi. Un truc qui marche bien aussi, c'est la petite compote en petite gourde, là, vous savez, les pommes potes, des trucs comme ça. L'avantage, c'est en fait, c'est facile à digérer. Hein, c'est le corps a pas d'effort à déstructurer. Autant une pomme, le corps doit faire l'effort de déstructurer. Et alors là, c'est là où c'est super important aussi, c'est la mastication. Vous savez que chaque bouchée doit être mastiquée 25 fois. C'est ce qui va aider en fait tout votre système digestif à traiter le produit que vous ingérez beaucoup plus facilement et vraiment lui demander moins d'efforts, et ça vous demandera moins d'efforts à tout votre organisme. Et donc là, c'est un élément qui est extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que bon, la compote, elle est pré-mâchée, j'ai envie de dire, et puis c'est pratique à emporter, on peut la mettre dans la poche pendant l'échauffement et puis on en prend des petits bouts, etc., comme ça, enfin des petites gorgées. Et à la fin, juste avant la course, on jette ça dans une poubelle. Et moi, ce que j'ai toujours avec moi, ce que je rajoute aussi dans cette poubelle dans laquelle je vais jeter, c'est une petite bouteille d'eau de 50 centilitres. Je m'échauffe toujours avec une bouteille d'eau de 50 centilitres. Des fois, je rajoute un petit peu de sel, des choses comme ça à l'intérieur, mais sur des courses un peu plus longues, mais souvent c'est juste de l'eau pure comme ça. Et en fait, je la fais durer pendant tout l'échauffement et j'ai fini de la boire juste avant le départ. Ça fait partie un peu de mes tocs. Je jette ma petite compote ou mon papier de barre d'amande et ma bouteille d'eau dans la poubelle la plus proche de la ligne de départ, et là je suis prêt. Vous voyez, ça fait vraiment partie. Ça fait un peu toqué quand même de dire comme ça, mais c'est comme ça que je le vis. Ensuite, une fois que c'est parti, moi je ne prends pas de gel. En fait, ça me détraque. Quand je regarde la composition en plus, je me dis waouh. Moi, j'aime bien la notion de naturel. Je me suis rendu compte que j'aimais bien le. En fait, on a que des produits. On est sur du produit non transformé à la maison. Au maximum, on mange du produit non transformé. Et donc, d'un coup, se dire que au moment où on fait le plus d'efforts pour son corps, pour son bien-être, etc., aller prendre un produit qui est ultra transformé, pour moi, vous voyez, il y a une espèce d'entrechoquement des mondes dans ma tête. Donc, ça va pas. Et donc, je carbure à l'abricot sec, à la pâte d'amande. La date par exemple, les Energy Ball, hein, je le redis, hein, je mettrai la recette dans les notes de l'épisode, je mettrai parce que j'ai mis plusieurs recettes sur mon site, des pâtes de fruits, des choses comme ça. Oxytis par exemple fait des pâtes de fruits qui se découpent, qui sont prédécoupées en 3 morceaux, c'est pas mal. Par exemple sur des trails, je prends 2 paquets comme ça, je prends une pâte de fruits toutes les 20-25 minutes, enfin un tiers de la pâte de fruits toutes les 20-25 minutes, et en alternance avec de l'eau. Justement, le but du jeu, c'est pas trop charger en sucre en permanence, parce que sinon on crée des pics de glycémie, donc c'est encore pire, c'est-à-dire que sur l'instant, ça met beaucoup d'énergie, puis ensuite la chute est fatale, et donc on est obligé de reprendre beaucoup de sucre. Ça, oui, les pics de glycémie sur la faim, on peut le gérer, on peut manger beaucoup de sucre à la faim. J'ai même entendu d'ailleurs des gens qui courent du marathon, mais vraiment des très très rapides, qui disent que sur les derniers kilomètres, ils consomment énormément de sucre pour garder l'énergie, pour avoir le maximum d'énergie jusqu'à la fin. Voilà, c'est partie peut-être de stratégie que peuvent avoir les grands marathoniens, les grands coureurs, ceux qui ont beaucoup d'expérience. J'évite de prendre des trucs trop sucrés, comme le pain d'épices, par exemple, sur les tables de ravitaillement. le pain d'épices, etc. Je sais qu'à l'époque j'en étais fan, mais ça c'est super sucré, puis ça me laisse un goût en bouche trop sucré. En revanche, si je vois des petits trucs salés, des tucs par exemple, oui. J'ai même pris sur un trail, il y a du fromage, et je me suis rendu compte que c'était très 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 bien passé. Alors ça dépend le fromage, mais par exemple quand c'est du fromage un peu pâte dure, un peu, enfin quand je dis dur, vous voyez, un peu le Cantal, des choses comme ça, ou du Brie, moi ça passe bien. Soyons honnêtes, ça passe pas chez tout le monde, mais moi ça passe bien. Sur les courses qui dépassent les 10 km, donc j'ai toujours la stratégie de dire j'ai une petite flaque, une flasque d'eau. Dedans ça peut être des fois un peu de sucre, ça peut être du bicarbonate, ça peut être du sel, ça, des fois c'est pas de l'eau, ça peut être du thé, j'ai essayé de l'infusion, je mets un peu de citron, un peu de miel, enfin vous voyez, une espèce de boisson un petit peu d'effort comme ça, etc. Et j'ai même vu, il y aurait une astuce qui serait de dire on pourrait mettre du jus de pomme par exemple aussi à l'intérieur, pour faire des espèces de sortes de boissons un peu plus épaisses, hein, qui seraient un peu des sortes de gel mais maison. Ça c'est un truc qu'il faut que je teste, surtout si je m'aligne sur un trail à la rentrée. J'ai en prévision, j'aimerais bien faire un trail à la rentrée, mais je sais pas encore, hein, je suis pas inscrit. Là il y aurait 36 km, et donc dans ce cas là oui, il faut avoir un ravitaillement, et surtout qu'il y aurait pas de ravitaillement sur la course du fait du coronavirus. Donc il faut avoir des solutions qui permettent de se ravitailler. Et moi, c'est vrai que de plus en plus, j'évite le sucre, ce qui est la poursuite de ma lutte contre le sucre, hein, puisque pendant des années, j'étais addict au sucre. Hein, je consommais une quantité de sucre qui était beaucoup trop importante. Et donc maintenant, finalement, même dans la course, je me rends compte que j'en prends moins. On m'a posé, alors sur la fin, pour répondre à la question, après la course, je le dis, moi, j'adore le sucre et j'en ai besoin pour refaire le plein. Et par contre, là, il faut que je me freine, parce que le sucre, c'est pas idéal pour la récupération non plus. Manger, on dit qu'on a une fenêtre métabolique après, qu'on peut tout manger, que le corps va tout transformer, etc. Mais en fait, le corps, en fait, il a besoin de quoi? Il a besoin d'eau, il a besoin de sels minéraux, il a besoin de vitamines pour reconstruire, il a besoin de protéines. Manger des carrés de chocolat en gogo, c'est pas forcément le truc qui va le nourrir plus. Mais voyez, par exemple, s'il y a du 4 quarts, vous voyez, des petits gâteaux de ce type-là, des 4 quarts, des choses comme ça. Moi, j'adore ça, là, arriver des courses. Un bout de 4 quarts avec un petit carré de chocolat, sincèrement, à l'arrivée d'une course, j'aime bien. Mais sinon, j'ai toujours dans mon sac une banane, des dattes, une petite gourde de compote, encore. Voilà, j'ai mon petit stock de pompotes à la maison, les courses, la veille des courses, en général, je vais acheter mon petit stock de pompotes. Même si on a de quoi faire des flats, on a de quoi les faire nous-mêmes en plus, les petites gourdes à la maison, ça fait longtemps qu'on, j'en fais pas systématiquement, mais pour notre fille, on a de quoi les faire. Et donc, fait partie, vous voyez, je pourrais même les faire moi-même, avec faire de la compote maison, etc. Mais l'idée, c'est ça. Un coach fitness m'avait dit, conseillé de prendre des boissons avec des BCAA, je l'ai pas fait, il m'a dit, ouais, tu vas voir, ta récupération va être au top, etc. Je l'ai jamais fait, donc je peux pas te dire si ça marche, etc. Mais voilà, moi je fais pas. Les boissons de récup, c'est pareil. Je suis pas un fan de la grosse de la boisson de récup après. J'ai des pots de boisse de poudre à la maison qu'on finit par se périmer à force de pas les utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai jamais constaté de savoir s'il y avait vraiment une efficacité avant. J'ai jamais réussi à mesurer, en fait. Voilà. Soyons honnêtes, je trouve que la meilleure récupération après une course, sur les courses que je fais moi, c'est de m'allonger les pieds en l'air, c'est de bien manger, de faire un repas vraiment correct, faire une sieste, etc. Ça, c'est une vraie récupération, plutôt que ces boissons-là, je sais pas trop. Par contre, ce que je prends toujours, c'est Saint-Yor, Vichy Célestin, des boissons de ce type-là, bien chargées en sels minéraux, parce que pendant qu'on court, on transpire beaucoup, et donc c'est en sels minéraux qu'on en perd, et donc ça, vraiment, oui, par contre, c'est important. Et souvent, en plus, alors moi, en Auvergne, en plus, on a beaucoup d'eau minéralisée dans le coin. Donc, souvent, il y a d'autres sources, hein, que les deux de Saint-Yor et Vichy, qui sont, je les appelle les jumelles, moi, mais elles sont, c'est à Vichy, quoi, les deux. Et sur ce type de course, souvent on a des alors d'autres sources comme ça, mais souvent il y a de l'eau gazeuse, et moi c'est vrai que j'apprécie particulièrement ces eaux minéralisées, parce que c'est important. Et tous les jours, hein, je le dis, tous les jours, à chaque repas, je prends un verre de Vichy Célestin de Saint-Yor. J'ai mon petit pack à la maison. J'en bois pas trop non plus, parce qu'après, moi, je trouve que ça finit par ballonner au bout d'un moment. Mais ça, avec un petit peu de jus de citron, est très bon pour tamponner l'acidité après les courses, notamment. C'est très, 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 très intéressant. Mais la banane aussi, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, vous voyez, vous avez un petit peu mon cocktail, hein, d'après course, de avant, pendant, après. Bon, il y a un petit peu de ce que je prends. En tout cas, ça va m'amener à la question suivante. Il y a un truc que je prends très rarement, c'est l'alcool. Car oui, c'est la question suivante qu'on m'a posée, c'est une question d'Adeline qui me dit « Bonjour Bertrand, je voudrais savoir si tu consommes de l'alcool. » Alors, pour répondre honnêtement, ma consommation d'alcool dans l'année, faudrait que je la mesure un jour. Franchement, si c'est... je pense que sur le mois de juin, c'est un verre de kir, et sur le mois de juillet, c'est une coupe de champagne pour l'anniversaire de ma maman. Pour l'instant, vous voyez, à peu près, la consommation d'alcool, c'en est une blague même. C'est vraiment une blague. Il y a une blague à la maison, c'est que j'achète une bouteille de vin par an seulement. C'est au moment de Noël, c'est du blanc liquoreux pour manger avec les trucs type les trucs de fin d'année, là, vous voyez, un petit peu foie gras, etc. Et en fait, en 2019, je l'ai même pas acheté la bouteille. C'est-à-dire que d'habitude, chaque année, début décembre, j'achète une bouteille qui me fait presque tout le mois. Vous voyez, c'est du Tariquet, du Sauternes, des choses comme ça. Et en 2019, je l'ai même pas acheté ma bouteille. Donc, ce qui veut dire que sur l'année 2019, si j'ai bu l'équivalent de 3 verres de vin, c'est y a rien quoi. L'autre blague aussi, c'est que en fait, comme j'en bois pas, j'achète le vin en fonction de la beauté de l'étiquette. Alors des fois, c'est une vraie réussite. Mon beau-père un jour était très 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 surpris. Je lui sorte un Beaujolais nouveau qui était bon. Il m'a dit mais comment tu l'as choisi? Et je dis bah c'est celui qui avait l'étiquette qui moi me parlait le plus. Et en fait, elle était design et tout. Il y avait un joli dessin dessus. Vous voyez, bon, je dis voilà, c'est l'étiquette qui me parle le plus. Mais si on fait un effort sur l'étiquette, peut-être qu'ils ont fait un effort sur le vin. Vous voyez, ça pourrait être trompeur. Mais bref, vous voyez, ma consommation d'alcool, elle est très 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 résumée. Et pourtant, à une époque, j'en buvais beaucoup plus. Beaucoup plus. Attention, je suis pas fan du vin, mais je buvais de la bière. Vous voyez, j'aimais bien boire une bière de temps en temps. Je sortais un petit peu. Quand j'étais étudiant, j'ai pris les soirées étudiantes, j'ai pris mes murs. Soyons clairs. Il y a eu des soirées qui étaient beaucoup trop arrosées. Une époque aussi, j'adorais. Et j'adore la bière, en fait. J'aime bien les bières. Mais en fait, j'en bois une de temps en temps. Quand on part en vacances, je vais à la petite brasserie locale. On en achète une ou deux. Vous voyez, en fait, je bois pas de vin, mais sur le mois d'août, peut-être, si on part en vacances, il y a une brasserie locale, je vais acheter une bouteille, deux bouteilles, vous voyez, les goûter comme ça, ça fait une boisson à l'apéro de temps en temps. Mais vraiment, c'est ma consommation qui est très limitée. Avant, j'avais des livres sur la bière. Vraiment, je m'intéressais vraiment à la bière. Je trouve que c'est un domaine qui est vraiment super intéressant. J'ai même été invité à un événement par Heineken, qui m'avait invité sur un événement avec un gars qui est une sorte d'œnologue de la bière, vraiment pour faire de la cuisine. On avait parlé de la bière. C'était vraiment super intéressant. Donc, ça m'intéresse. Le sujet m'intéressait en lui-même. J'aime bien, vous voyez, si je prends à la maison, j'ai des stocks de quelques bières, etc. J'aime bien en servir aux gens quand on a quelques invités à la maison. J'aime bien en boire une de temps en temps. J'ai mes petites préférences, vous voyez, de bières assez légères, etc. Et voilà, ça se limite vraiment à ça. Des fois, pour la blague, une fois, j'avais acheté une Duff, qui est la bière d'Homer Simpson. Là aussi, hein, j'ai des choix qui sont un petit peu rigolos, quoi. J'avais une Dark J'adore, qui est une bière un petit peu, comment s'appelle, hommage à Star Wars, vous voyez, des trucs comme ça un petit peu, vous voyez, mais donc j'en bois pas. Après, pour revenir sur, par contre, l'alcool en lui-même, c'est la question, Adeline, je pense qu'elle est intéressante sur un point, c'est de savoir si finalement, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Alors, j'enlève le côté boisson plaisir, parce que pour moi l'alcool, en fait, c'est une boisson plaisir. En fait, on sait que le corps ne sait pas traiter l'alcool et qu'en fait l'alcool ne sert à rien pour le corps. Donc ça reste une boisson plaisir, ça doit être une boisson plaisir. Et après, est-ce que ça doit être une boisson réflexe? C'est ça un petit peu, voyez moi un petit peu la différence. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne conçoivent pas un repas sans vin, qui ne conçoivent pas d'apéro sans alcool, sans je sais pas quoi. Et moi, ça, c'est pas mon cas. Moi, pour moi, mes petites bulles avec du citron ou alors un petit fond de mentalo ou d'antésite, moi, franchement, ça me fait un bon apéro. Ma femme, quand elle fait des fois des jus de légumes, des jus de fruits, des jus de légumes, etc., y a des trucs qui, je trouve, largement meilleurs, en fait, vous voyez, et j'y prends beaucoup plus de plaisir. Par rapport à mon cas de perte de poids, etc., en plus, ce que j'avais vu, c'est de tous les cas, c'est que l'alcool, c'est du sucre. litres. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, si vous buvez un verre de vin, c'est-à-dire 10 centilitres, ça fait 10 à 12 grammes d'éthanol. Alors, comme ça, ça vous dit rien, sauf que l'éthanol, c'est du sucre, et que ça revient à manger 3 carrés de sucre en termes de calories. Un verre de vin, c'est 3 carrés de sucre. Voilà. On critique beaucoup le coca. On critique beaucoup le coca, on dit le coca, c'est le mal. Et c'est vrai que le coca, c'est du sucre. C'est, je sais plus combien de pourcentage de sucre. Mais quand vous regardez certains jus de fruits du commerce, quand vous regardez le vin, quand vous regardez le Ricard, les boissons, certaines boissons comme ça, honnêtement, regardez la quantité de sucre qu'il y a dedans, vous allez voir que c'est hallucinant. Alors moi, ce que je fais, c'est que le samedi, quand on va manger chez ma maman, elle me sort une petite canette de coca, c'est ma seule canette de coca de la semaine, et même des fois de 15 jours ou de 3 semaines, parce que je la prends pas systématiquement, et ça, j'en prends un vrai plaisir. En revanche, comme l'alcool me fait pas plaisir, et ben vous voyez, je me dis, c'est encore mieux pour moi, parce que j'en ai pas besoin, ça me fait pas envie, etc. Donc je vais pas... après, socialement, vous voyez, j'ai appris à dire non, on me dit, ah, tu veux pas boire l'apéro? Non, quand ça me fait pas envie, ça me fait pas envie. Et à 44 ans, ou presque, je suis capable de dire non, j'ai pas envie de boire d'alcool. Ensuite, il y a d'autres éléments sur l'alcool. Par exemple, on sait que ça retarderait la... Enfin, on sait, il y a des études qui montreraient que ça retarde la satiété. Ça vous fait manger plus, potentiellement. C'est aussi associé à des habitudes. Hein. Quand on ouvre une bouteille à l'apéro, on sort les chips aussi, ou on sort le saucisson, on sort le fromage, on sort des trucs comme ça. Ça, c'est fait partie des trucs habitudes, vous voyez. Le truc, c'est pas de dire, c'est pas juste la bière, en fait, c'est que la bière va s'accompagner d'autres choses à côté. Elle va s'accompagner de chips, elle va s'accompagner de un repas peut-être plus gros, elle va peut-être s'accompagner de plein de choses à côté. Elle va enlever aussi peut-être du mouvement, parce qu'on va dire, bah tiens, je vais prendre une bière en rentrant du boulot plutôt que d'aller courir, vous voyez. Il peut y avoir des habitudes comme ça qui sont liées, en fait, finalement, à tout un tas de schémas qu'on a incorporés. Donc moi, ça, ben non, pour répondre à ta question, ça n'existe pas chez moi. En plus, l'alcool, alors pour finir là-dessus, c'est agit au niveau de l'hypothalamus, qui est une glande qui est localisée à base du cerveau. En fait, ça chamboulerait la production des hormones impliquées dans la régulation de l'appétit. Hein, je disais par rapport à la satiété. Un psychiatre américain qui a étudié les effets de l'alcool, il s'appelle le professeur Seeley, dit il est très difficile d'arrêter de manger lorsqu'on a commencé à boire. Alors là, vous voyez, c'est même pas que ça retarde la satiété, c'est que même ça freine finalement notre volonté d'arrêter de manger, enfin notre contrôle de l'appétit. Et j'avais dit à ma femme, c'est une discussion qu'on a eue il y a pas longtemps, l'un des trucs les plus durs, je pense, c'est notre éducation qui fait que on va finir les assiettes, parce que vous savez, on a eu ce truc de dire, et je vois avec ma fille, parce que des fois on dit, ah, attends, t'as fait ça, mais t'as pas fini, t'en as laissé la moitié, etc. Mais si elle a plus faim, elle a plus faim, il faut que j'apprenne à ça. Et nous aussi, il faut qu'on apprenne à se dire, bah, quand on a plus faim, on a plus faim. Même s'il en reste dans l'assiette, et ben, c'est pas grave, on fera réchauffer le lendemain, etc., si on veut pas gâcher. Mais cette notion de nos parents qui disaient, il faut pas gâcher, finis ton assiette, etc., nous conduit à des mauvais comportements. Et si on rajoute en plus l'alcool qui freinerait notre satiété, notre régulation de l'appétit, c'est comme ça qu'on prend du poids aussi, c'est comme ça qu'on grossit sans s'en rendre compte, parce que on n'a pas l'impression de faire des excès, mais finalement, ben, petite chose par petite chose par petite chose par petite chose, en fait, ça fait beaucoup de choses. Moi, quand je me suis rendu compte, à un moment donné, quand je consommais trop de sucre, c'était l'accumulation, c'était un verre de coca tous les jours, c'était une glace à ça, un gâteau à ça, et quand on fait le total, et ben à la fin, vous vous retrouvez avec une boîte de sucre. Bah ben, voilà, c'est comme ça. Donc l'alcool, pour moi, il n'existe quasiment plus, hein, voilà, tout simplement. Y a des bouteilles d'alcool à la maison, c'est pour payer l'apéro aux gens qui viennent. Et en plus, parce que j'ai encore d'autres infos et j'ai oublié de vous les donner, c'est que l'alcool, outre ses notions de sucre, de satiété, en fait, il aurait un problème sur, comme le corps ne sait pas le traiter, qu'est-ce qui fait de l'alcool une fois qu'il est ingurgité? Et ben en fait, c'est le foie qui va devoir s'y coller, hein, pour arriver à le traiter. En fait, le foie, c'est un organe qui est incroyable, hein, dans le traitement. Parce que ma femme explique des trucs, je me dis, mais c'est dingue, c'est vraiment dingue, hein, tout ce que fait le foie. Il a 25 fonctions, je crois. Et notamment, c'est lui qui va traiter toutes ces cochonneries, en fait, hein, un petit peu. Et en fait, il va produire des substances qui alimentent la fabrication d'acides gras. Et en fait, en même temps, l'alcool, il freinerait et retarderait la combustion des graisses. Et donc, on a une espèce de mélange qui ferait que, finalement, eh ben, on se retrouve avec des dépôts graisseux qui vient de, tout simplement, que le corps ne sait pas trop quoi faire de ce sucre en plus, de cet éthanol, hein, tout simplement. Et donc, en fait, ça provoque des dépôts graisseux et c'est sur l'abdomen et le foie lui-même. Alors, vous savez peut-être qu'il y a une maladie qui s'appelle d'avoir le foie trop gras. Voilà. Là, c'est vraiment quand on a des alimentations vraiment très 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 sucrées et ça pose vraiment des vrais gros problèmes. Mais en fait, le foie est un organe dont il faut prendre soin. Voilà, il faut apprendre à prendre soin de son foie et bien manger. Pas trop boire en fait partie aussi. Donc pour moi tout ça tombe bien. Je n'ai jamais été un grand fan d'alcool. J'aimais bien mes petites bières, etc. Je ne suis pas donc je peux largement m'en passer et en plus c'est bien pour ma ligne, c'est bien pour ma forme, c'est bien pour ma santé, etc. Et je ne crois pas au fameux mythe, vous savez, de faut boire un verre d'alcool tous les jours pour le tanin, pour les trucs cardiovasculaires, etc. J'ai vu des études qui disent que c'est pas vrai, il y a des études qui disent que c'est vrai, etc. Moi, je crois pas à ce mythe-là, en fait, parce que j'ai pas eu suffisamment d'informations qui me prouveraient que, franchement, que le fait de boire ce verre d'alcool, ce verre de vin rouge à midi tous les jours, aurait plus de bénéfices que de pas boire d'alcool, surtout si ça me fait pas envie. Donc, voilà, vous voyez le cumul de tout ça, pour Adeline, pour répondre à ta question, non, je ne bois pas d'alcool, j'en bois très 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 peu. Je fais pas le calcul de la consommation d'alcool que j'ai dans l'année, mais franchement, c'est tellement faible, c'est tellement ridicule qu'en pourcentage, ça représente rien dans ma journée. La question suivante me vient de Mathieu. Mathieu, il me demande, alors cette course virtuelle, est-ce que tu as aimé, tu retenteras l'expérience? Oui, alors, pourquoi il pose cette question? Parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait un épisode sur les courses virtuelles, en disant que moi, je voyais pas trop l'intérêt, mais Mathieu, lui, c'est un grand fan des courses virtuelles, il fait péter tous ses chronos sur les courses virtuelles. Et donc, la semaine dernière, il y avait une course virtuelle organisé par la Fédération d'athlétisme, qui était entre samedi et hier 14 juillet. Donc pour l'instant, on n'a pas les résultats. Ouais, j'ai regardé, hein, moi je suis mis 600e. Le premier, il court deux fois plus vite que... Non, il court pas deux fois plus vite que moi. Je crois qu'il le fait en 15 minutes ou 14 minutes et quelques, le 5 km. Moi, je vais en juste moins de 22 minutes. Je suis loin de mon meilleur temps, mais ça montre que j'ai pas trié la vitesse, que je fais que de l'endurance mentale en ce moment, un petit peu de côte, je ne travaille pas la vitesse, pas de VMA, etc., de VMA rapide. Donc, ça explique que je manque de vitesse. J'ai pas d'entraînement de vitesse tout de suite. Et donc, c'est pas une course qui a été très, très rapide pour moi. Et en plus, soyons honnêtes, ça reste finalement une séance où on s'entraîne tout seul dans son coin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le public, il n'y a pas le rythme des concurrents, etc. Et hier, j'ai croisé quelqu'un du club et il m'a dit on a parlé des fameuses courses virtuelles. Donc il avait vu que j'avais fait cette course-là. Et puis hier, c'était drôle parce que c'est pour ça que Mathieu me parle de cette course-là. Il me dit alors les courses virtuelles, t'as aimé? Parce que hier, c'était 14 juillet, il y avait une course qui s'appelle Défi Bastille ou je sais pas quoi. C'était faire 14 km pour le 14 juillet. Et donc il m'avait envoyé une invitation. Donc Mathieu, je te remercie pour l'invitation. Et moi, j'ai essayé de planifier un parcours en me disant, bah, tiens, je vais faire 14 km, je vais essayer de rentrer dans le défi, ça passait par ce travail, etc. Sauf que je me suis perdu. Je me suis trouvé dans les ronces, etc. J'ai voulu monter sur une montagne et en fait, j'ai voulu prendre un chemin d'habitude, autrement, pour arriver à faire pile les 14. Et je suis parti sur le mauvais versant. Au bout d'un moment, j'ai dû revenir sur mes pas, etc. Et je me retrouve presque avec 18 km. Et donc, elle comptabilise pas. Voilà, et puis de toute façon, mon temps, il y avait 500 mètres de dénivelé positif, donc ça rentre pas dans le truc. Mais dans tous les cas, ça resterait un entraînement seul, ça resterait une sortie longue seule, ça resterait... il manque l'ambiance, etc. Et donc hier, j'en discute avec quelqu'un du club et tout, qui lui est très rapide. Et donc on en discute et il me dit « Ouais, tiens, j'aurais peut-être pu le faire, j'aurais vu. » Mais il me dit d'un autre côté... Enfin, ça reste à tourner tout seul, quoi. Il dit là ce que je vais faire tout seul, j'ai pas besoin d'être inscrit à une course virtuelle pour le faire, etc. Il me dit moi ce que j'aime bien, c'est l'ambiance, ça me tire et tout. Il me dit c'est là où je fais mes meilleurs temps. Et il me dit je testerai peut-être un jour. Et c'est ce que je voudrais dire en fait, c'est que j'ai testé. Moi je suis, c'est pas ce qui me motive. J'ai pas l'esprit en plus quand elles sont payantes me dire payer 10 € pour aller tourner tout seul autour de mon truc et faire partie d'un classement ou dans lequel finalement je suis le 1600 quelque chose. Bof, voilà. Donc Mathieu, non, pour répondre à ta question, je suis pas fan. Je te remercie de m'avoir envoyé un code pour être inscrit dessus. J'ai pas vu ton temps à toi. J'ai fait mon 5 km pour la Fédération d'athlètes. Alors on verra le résultat, voilà. Jusqu'à hier, j'étais dans le top 1000 et puis j'ai vu ce matin que ça a glissé sur Strava. J'ai vu que ça a glissé parce que quand tout le monde rajoute ses temps, et puis il y en a vraiment et c'est des avions quoi. Donc je me dis là, on court pas dans le même domaine, mais après je reste ouvert au fait qu'il y a des courses virtuelles pour des bonnes causes. Voilà, mais je reviens sur l'épisode que j'avais fait sur le sujet. Si c'est pour donner 10 € à une bonne cause, je peux donner 10 € à la bonne cause et aller courir tout seul dans mon coin. Si c'est pour donner 10 € et qu'il y a 4 € ou 5 € ou 6 € qui vont à la bonne cause et que le reste va dans des frais de restructure de tout un tas de trucs, je suis moins fan, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Après, je comprends, par contre, le défi, la volonté d'avoir le défi, etc. Je comprends à quel point ça peut être important et motivant. Et quand je vois les temps de Mathieu, hein, comme il éclate ces trucs, je me dis, bah, c'est cool d'avoir trouvé là-dedans, toi, ton mode de fonctionnement et ce qui te permet, toi, d'avancer. Alors, je vous ai parlé un petit peu de ma sortie d'hier. Ça me permet de rebondir sur la question suivante d'Hermano, qui me donne mon ressenti sur mon défi de courir tous les jours, et notamment d'avoir fait 18 km et 500 mètres de dénivelé positif en courant tous les jours. Et comment je me sens? Et puis, mais une deuxième question, il dit, et comment tu te sens le lendemain, donc ce matin, là, quand j'enregistre, parce que là, j'enregistre, vous voyez, il est 8h-10, donc je suis allé courir, je vous ai dit, 3,7 km. Et donc, comment je le prends, tout ça? Alors, je vous rappelle que mon défi, c'est de courir tous les jours au mois de juillet. C'est ce que j'appelle mon 31 jours running. J'ai fait un épisode le 1er juillet pour vous expliquer exactement le concept. Et la grande surprise, en fait, c'est que ça passe crème. Cette séance de 18 km avec le dénivelé, etc., elle est passée crème. Même le retour à la maison où il y a une grande côte, etc., est passé crème. Et là, c'est vraiment, je suis dans l'expérimentation, la découverte de ce que c'est. Je vous rappelle que le truc, c'est de dire, je fais d'abord de la course en endurance augmentée. Je dois faire 1 km ou 10 minutes minimum tous les jours. Dans les faits, j'ai toujours fait 2, 3, 4, 5. La semaine dernière, j'ai même dépassé mon quota de distance que j'avais prévu de faire. Je devais faire c'est 33, j'en ai fait beaucoup plus. Cette semaine, ça me donne un cap qui est plus large, hein. Je peux en faire 40 ou 45, 44 je crois, donc ça me donne un cap qui est plus important, mais toujours est-il que je fais attention, hein, c'est ma règle des 10%, c'est de faire augmenter petit à petit, etc., le volume d'entraînement, c'est de pas charger le corps avec une fatigue trop intense, c'est-à-dire que je vous ai dit, je fais pas de VMA, là je vais attaquer des 30-30 quand même pour travailler un petit peu la vitesse, mais c'est pas faire de la vitesse tous les jours, donc c'est faire 80% d'endurance mentale. Et donc hier, cette sortie-là, je l'ai faite. Et c'est vrai que ce qui est assez drôle, et c'est ce que je disais à ceux qui financent le podcast, dans le podcast de lundi, c'est que je me rends compte en fait que je me rapproche de mes allures marathon. Et c'est une remarque d'Hermano qui m'a fait sur mon Strava, il m'a dit, bah tiens, tu te rapproches quand même de l'allure marathon. Et effectivement, petit à petit, en fait, je retrouve des séances d'entraînement où je me rapproche de cette allure marathon sans avoir le cardio qui s'envole. Et c'est assez drôle parce que sur un segment, vous voyez, c'est vraiment drôle. Sur les segments Strava, en fait, je fais péter des segments, mais sans m'en rendre compte et sans avoir l'impression de mettre de la vitesse ou quoi que ce soit, vraiment en y allant à la cool. Mais c'est juste en fait que ben le foncier revient, le cardio est plus bas, j'ai plus de vitesse, j'ai plus de... Et même sur des choses qui j'ai l'impression que je vais pas vite, en fait je me rends compte quand même que ma vitesse globale a augmenté sans pour autant travailler la vitesse. C'est-à-dire que c'est vraiment la caractéristique de l'endurance mentale, du foncier, etc. C'est-à-dire que j'ai une vitesse de base qui petit à petit augmente et sans charger la mule, sans être trop fatigué, etc. Là, je ressens pas de fatigue excessive ou quoi que ce soit. Je fais attention tous les matins, étirement, yoga, je fais attention à essayer de dormir assez, je fais ma petite sieste tous les jours, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de trucs comme ça. Je me rends compte que mon corps, petit à petit, il gère différemment les choses. Avant, une sortie longue, c'était... J'ai fait le dimanche, le samedi je ne courais pas et le lundi je ne courais pas. Je mettais toujours cet espacement comme ça et maintenant, ben, par le fait du défi 31 jours, je cours tous les jours. Donc, le lendemain d'une sortie longue, c'est une petite sortie. Alors une fois c'était 2 km. Là ce matin j'ai un peu 3,7 ou 3,7 je crois. Et en fait, au début, dans les 500 premiers mètres, les jambes sont un peu raides et puis petit à petit, en fait, la machine se chauffe et je me rends compte tranquillement, voilà, petite foulée. Et à un moment donné, j'étais à 6,5 du kilomètre, hein, presque 7 minutes du kilomètre. Donc, vous voyez, c'est très lent sur cette récupération. Petit à petit, après, ça revient, ça réaccélère, etc. Ça revient tranquille. Et voilà, je suis bien. Et donc, c'est pour répondre à ta question, Hermano. Voilà, c'est une vraie surprise hein, dans cette histoire-là. C'est que pour moi, le truc, je me disais, bon, il peut y avoir la lassitude, il peut y avoir de la fatigue, il y a des jours où je n'aurais pas envie, et en fait, je me rends compte que c'est une habitude qui est en train de s'intégrer, voilà, et que ben, mon corps, petit à petit, il apprend à gérer, que moi, j'apprends à gérer, que je fais plus attention à certaines choses, ça me remet dans des bonnes habitudes, et ça, c'est un point qui est vraiment super intéressant, et que ben, le fait d'aligner comme ça, des petites séances, et de travailler vraiment en endurance mentale, me permet ensuite d'aller sur des distances un peu plus longues. Il y a un jour, j'ai fait 12, là, 17, ça faisait fait longtemps que j'ai pas couru, j'étais presque à 18 hier. C'est ma plus longue sortie depuis le début du confinement en fait, hein, vraiment donc et elle est passée crème et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle et c'est vraiment super intéressant par rapport à la suite, notamment si je prépare un trail 36 km et puis un semi-marathon à la fin de l'année, et ben j'ai besoin de travailler ça et donc ça va m'encourager. Alors je dis pas que je vais continuer à courir tous les jours toute l'année, mais en tout cas ça m'encourage à continuer à faire beaucoup beaucoup d'endurance mentale parce que c'est vraiment pour l'instant moi ce qui m'apporte et qui me permet de progresser, je trouve, hein, pour l'instant le plus vite actuellement, le mieux, c'est vraiment ça pour l'instant. Mais bien sûr après je vais rajouter un petit peu de vitesse parce que j'ai toujours dans ma tête ce défi de dire comment passer sous les 20 minutes sur 5 km, comment passer sous les 40 minutes sur 10 km. Vous savez, c'est cette espèce de frontière du coureur lent, coureur rapide, coureur, cette espèce de barrière là qu'on a là dedans, et j'en reparlerai à la fin parce que pour moi c'est une frontière qui un espèce de plafond, vous voyez, qui que j'avais en tête, et c'est une certaine dire est-ce que je suis capable de le faire, voilà le truc. Mais pour faire ça, et ben il faut un vrai travail pour arriver, ce qu'on disait avec Thibaut hein, dans l'épisode de la semaine dernière, il faut un vrai travail pour arriver à gagner les quelques secondes, les quelques minutes, la régularité, etc. Et pour l'instant je le fais pas, mais je vais construire sur cette base de foncier pour arriver à le faire. Ensuite, j'avais une question de Nicolas, si je me trompe pas, j'espère, je l'ai pas marqué sur mes notes, mais je crois que c'est Nicolas, qui me dit « Hello, merci pour tes partages, envie de démarrer le running, mais franchement, je n'ai jamais réussi à faire plus de 5 km car je me fais chier, et cela ne m'intéresse pas. Donc je veux me forcer à courir tous les jours et à faire une semaine 2 km jour, puis une semaine 3 km par jour, puis une semaine 4 km par jour. Qu'en penses-tu? Merci pour tes conseils. » Eh ben, je trouve... Je suis pas certain que ce soit une bonne idée en fait. Voilà. Moi je suis pour un programme plus progressif parce que finalement donc commencer comme ça sur 10 km, surtout si tu cours pas, etc. Déjà 2 km par jour tous les jours, ça fait une première semaine à 14. Mais le fait d'y aller tous les jours, alors c'est vrai que ça peut être une habitude, mais moi je me dis il faut partir. Bon, tu vois, moi sur mon défi, je suis parti sur dire je cours 1 km ou 10 minutes. 1 km ou 10 minutes. Bah déjà c'est ça, et puis ensuite d'augmenter petit à petit 10% par 10%, et en fait alors que là toi tu vas rapidement doubler la distance, et je suis pas certain que ce soit ce qui t'aide le mieux à courir en fait, c'est pas ce qui pour moi va t'aider le mieux à apprécier la course, parce que en fait dans l'appréciation de la course, et je comprends en fait ton sentiment, ça t'intéresse pas, etc. Alors pourquoi est-ce que tu veux absolument courir si ça t'intéresse pas, ça c'est une autre question, mais en fait il y a une question qui est importante, je trouve, que pour apprécier la course, c'est le confort que l'on a dans la course, c'est le confort que l'on a dans l'effort. C'est-à-dire que il y a un moment donné où oui, et c'est pas toujours facile, mais il y a pour prendre l'habitude, il faut qu'on y trouve un certain plaisir. Les habitudes, c'est un déclencheur, une habitude, une récompense. Et la récompense, c'est un certain plaisir. C'est de dire, oui, je l'ai fait, je suis content, je me sens bien après, etc. Mais si tu fais une semaine où tu cours 2 km tous les jours et qu'à la fin de la semaine, t'es terrassé, t'es épuisé, t'es pas bien, t'as pas de récompense et tu poursuivras pas. C'est un conseil que j'ai donné à mon neveu aussi qui veut se mettre à courir. Il me dit, oh, ben, je vais courir une heure samedi et tout. Je dis, non, tu vas pas. Fais un peu de marche, fais un peu d'alternance. Sur mon Instagram, j'ai partagé des programmes d'alternance, marche, course, etc. Courir une minute, marcher une minute, etc. Tu vois, pour répondre à ta question, Nicolas. Moi, je trouve que la première semaine, ce qui est vachement plus intéressant, ça serait d'abord de commencer par dire, je vais faire de l'alternance, marche, course, etc., à un lieu qui m'intéresse. Ça peut être en regardant les vitrines des magasins si t'es en ville, ça peut être en profitant de la campagne si t'es à la campagne, ça peut être d'aller sur un endroit où il y a un peu de vie, tu regardes un petit peu ce qu'il y a autour, ça peut être en écoutant un livre électronique, ça peut être en écoutant le podcast ou un autre podcast, ça peut être en écoutant de la musique, mais je veux dire, c'est de trouver quelque part un truc qui te plaît sur l'instant et dans lequel tu ne vas pas rajouter en fait un autre truc, parce que si tu fais un truc qui te plaît moyennement mais qu'en plus tu mets des trucs, c'est dur, que c'est compliqué, que ça va être puis après il y a les questions de vitesse, etc. C'est un truc pour moi de dégoûter. Donc moi je suis plus sur une notion de dire progresser petit à petit. Au début, courir tous les jours, je dis pas que c'est pas faisable, hein. Je dis oui peut-être, mais en faisant progresser vraiment en étant lent, doux, Et surtout, en appliquant une règle qui soit plus progressive que de dire « je cours la première semaine 2 km, puis après 3, puis 4, etc. » Parce qu'en fait, tu doubles très rapidement les distances. Tu vois, si tu appliquais la règle des 10%, si tu faisais 2 km la première semaine, les 4 km, tu les ferais que quelques semaines plus tard. Je veux dire, après, les 10%, ça fait vite augmenter hein, le chiffre. Mais soit plus progressif, pour moi, à mon sens, hein, c'est intéressant d'être plus progressif, parce que ce qui est important, en fait, c'est qu'il faut permettre au corps de s'adapter progressivement au stress mécanique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut une certaine dose d'effort qui soit plus importante que ce qu'on a fait avant pour progresser, pour faire monter la dose de stress mécanique, mais il faut pas que la dose d'effort soit trop importante non plus, sinon c'est là où ça casse. Et donc, en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de se dire, j'arrive à faire une certaine première distance, j'y trouve un certain confort, j'augmente un petit peu, j'y trouve un certain confort, j'augmente un petit peu, j'y trouve un certain confort, je suis pas fatigué excessivement, etc. Et l'alternance marche-course, là-dedans, dans ces points-là, elle est quand même très intéressante, parce que on est capable, par exemple, d'aller courir. Certaines personnes ne sont pas capables de courir 5 km, là, comme ça, j'ai beaucoup de messages là-dedans, de courir, tu vois, dans le cas, tu dis, Nicolas, j'arrive pas à faire plus de 5 km, il y a même des personnes qui n'arrivent pas à faire 5 km, tout simplement, et quand je discute avec elles, souvent, le truc, c'est, elles veulent les faire trop vite, elles veulent se mettre un critère de temps, elles sont trop pressées de les faire, etc., et c'est pour ça que moi, je dis, l'alternance de marche et de course, de courir lentement, d'endurance mentale, c'est quand même ce qui permet de construire hein, les bases pour arriver à faire des distances de manière plus agréable, y trouver plus de plaisir. Moi, j'ai des souvenirs où j'essayais de courir absolument à certaines vitesses, etc. À un moment où de courir, je courais n'importe comment, quoi. Enfin, l'autre jour, j'ai regardé mes statistiques en 2011, j'avais essayé de courir et j'avais arrêté, mais je courais n'importe comment, j'étais épuisé, ça me dégoûtait, j'avais pas envie de courir, etc. Et ça venait en fait aussi de ça, quoi. Avec l'expérience que j'ai maintenant, je sais que si j'avais pas réussi à courir à cette époque-là en 2011, il y avait le poids, il y avait mon alimentation, mais il y avait aussi le fait que je voulais absolument courir 5 km ou absolument courir une heure, etc. Et au début, non. Au début, courir 5 fois une minute, 6 fois une minute, 10 fois une minute, ben franchement, c'est déjà ça, parce que c'est le premier mouvement. Et puis ensuite, on va courir 5 fois 2 minutes, et puis ensuite 5 fois 3, et puis 5 fois 4, etc. Petit à petit, les distances vont s'allonger, on met de la marche au milieu. Mais si tu marches 5 km, et que dedans, t'as 1 km de course au départ, et puis qu'après, t'en as 2, puis qu'après, t'en as 3, puis qu'après, t'en as 4, et puis 5, tu vas arriver petit à petit à construire ce qui te permet cette construction où tu vas y prendre peut-être du plaisir. Peut-être tu vas arriver à y trouver le plaisir. Et j'ai en souvenir, j'ai reçu il y a pas longtemps un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Je déteste courir, on déteste courir, mais et ben avec un programme comme ça, on y a trouvé un certain plaisir et donc on est allé courir, on a fait le programme jusqu'au bout. » Et ça, je trouve que c'est génial. Parce que c'est exactement l'esprit que je trouve, moi, qui permet de construire une habitude de course, une habitude sportive, une habitude de mouvement. Et c'est vraiment, moi, ce que je voudrais vous transmettre à travers ce podcast. Bon, on arrive maintenant à la fin de cet épisode, ou presque, parce qu'il me reste une question, ou plutôt un commentaire. C'était pas vraiment une question, j'ai mis un sticker de question sur Instagram, donc. Et j'ai eu un commentaire, et puis une petite discussion qui a suivi. Je vous donne la teneur. Je vais dire merci à la personne qui me l'a envoyé, parce que vraiment, je te remercie très franchement du fond du cœur. Donc il me dit, il y a tellement de marathoniens plus expérimentés sur la toile pour aller chercher des infos, trois petits points, de leur dire voilà, ce que tu racontes c'est des conneries. Donc je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit bah oui, tu cours, moi je cours plus que toi, je fais plus de distance, je fais ça, il y a pas besoin d'avoir ces infos, tu cours depuis quelques temps, t'essaies de surfer sur la vague du running, d'être un influenceur running, etc. Voilà, ce genre de teneur comme ça. Et donc hier quand j'ai vu ce message là, j'ai dit waouh, voilà. Voilà, merci, merci. Donc je devais te remercier, Nico. Je te remercie pour ton commentaire. Je te remercie pour le message. Vraiment du fond du cœur, quoi. Alors, je sais que tu as écouté le podcast. Je sais pas si tu écouteras ce podcast. Normalement, d'après la teneur de ce que tu m'as dit, normalement, tu ne vas pas l'écouter parce que normalement tu n'as aucun conseil de ce que je te donne qui t'intéresse. Donc, il y a aucune raison que tu l'écoutes. Mais d'un côté, bah, tu me suis sur Instagram, donc peut-être que tu continues d'écouter le podcast, j'en sais rien. Mais en fait, tu viens de me justifier exactement le pourquoi du Hamsters Running Club. Tu, vraiment, tu me le mets, mais vraiment, tu vois, c'est ce message, les arguments que tu m'as mis, je vais pouvoir les afficher sur la page d'accueil du Hamster Running Club, parce que c'est exactement, en fait, le positionnement de ça. En fait, on est dans un monde où il y a tout type de coureurs. Il y a des coureurs lents, des coureurs rapides, il y a des gens qui courent depuis leur enfance, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est de ne pas avoir couru dans leur vie, et puis il y a des gens qui courent, qui font 100 kilos, il y a des gens qui font 130 kilos, qui courent, il y a des gens qui ont des expériences de vie difficiles, il y a des gens qui ont des expériences de vie qui ont envie à un moment donné de se remettre au sport, qui ont envie de courir, qui ont envie de faire du sport, et qui à un moment donné, qui pour qui, et on revient à la question que j'ai eue avant, hein, dire 5 kilomètres, je n'arrive pas à faire 5 kilomètres. Mais même, là on pourrait parler, moi mon cas, moi j'ai commencé à courir à 40 ans, mais j'ai des gens, j'ai en tête une étudiante, mais une étudiante, hein, que j'ai eue en étudiante, qui me dit, elle doit avoir quoi, 22, 23 ans, qui n'arrivait pas à courir 5 kilomètres. Donc, on peut pas dire, il n'y a pas que l'âge, il y a des habitudes, il y a le fait qu'on fait pas de sport, il y a plein de choses qui peuvent jouer là-dedans. Et donc, il y a tout type de coureurs. Moi, quand je vais au club, parce que maintenant, je suis en club depuis 3 ans, et quand je vois au club, il y a des gens très rapides. Nous, on a une fille au club, elle était championne de France, elle est en équipe de, elle est dans l'équipe d'Europe, etc. On a des gars qui courent, qui ont couru je sais pas combien de marathons, qui ont fait l'Ironman, qui courent des, qui ont des points pour faire l'UTMB, qui m'ont préparé ce genre de course-là, qui était même, vous voyez, donc il y a, et puis à côté on a des gens comme moi qui viennent courir, qui se disent bah tiens, genre je vais faire un marathon, tiens je voudrais bien apprendre à mieux courir, je voudrais bien apprendre à structurer mon entraînement. Il y a des gens qui n'avaient jamais couru, qui veulent se mettre à la course à pied. Il y a un groupe par exemple de femmes par exemple au club, ce sont des femmes qui elles couraient pas, ou elles courent lentement, elles ont besoin d'encadrement, d'accompagnement, elles ont besoin d'un petit groupe d'entraînement qui les aide à courir, de gens qui s'encouragent, elles vont faire les courses ensemble, elles ont fait une team, elles rigolent bien, etc., elles ont de leur surnom, et en fait, c'est exactement le truc que je voulais dire, c'est que il y a tout type de coureurs, et en fait, pendant très longtemps, je me considérais pas comme un coureur, et c'était à cause de ce type de commentaires. C'était à cause de ce type de messages, de trucs que je voyais, parce que, en fait, quand je voulais m'inscrire à un club, en fait, je me disais, ouais, mais si tu t'inscris dans un club, tu vas tomber sur des gens qui courent depuis des années, etc., et toi, t'arrives avec tes 20 kilos de trop, ils vont te regarder bizarrement, etc., ils disent, oui, les clubs sont ouverts à tout le monde, mais en fin de compte, il y en a que pour ceux qui courent vite, etc., toi, à côté, tu vas être délaissé, et autres. C'est pas le cas de mon club, mais je sais qu'il y a des clubs dans lesquels ça existe. Et en fait, je me sentais pas légitime même de courir, même de dire que je courais, parce que moi, quand je courais 10 kilomètres en une heure et quelques, je me sentais pas légitime. Et voyez, tout à l'heure, j'ai dit cette histoire de dire courir sous les 20 minutes, courir sous les 40 minutes, sur les 5, et ben ça revient à cette légitimité-là. En fait, quand je dis je suis un coureur lent, parce que je suis un coureur lent, et il y a des coureurs qui sont beaucoup plus rapides que moi, mais il y a des coureurs qui sont beaucoup plus lents que moi. La statistique qui a été donnée sur le marathon de Paris, c'est que le marathon de Paris, la moyenne, le médian, c'est 4h40. La moitié des gens courent le marathon de Paris en plus de 4h40. Moi, je le fais en 3h48. Mais bien sûr qu'après, il y en a. Je suis dans la première moitié. Et donc, ce qui veut dire que quelque part, je suis pas si lent que ça. Mais bien sûr que je suis lent par rapport à d'autres. Mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de courir? Qu'est-ce qui m'empêche de donner des conseils? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le droit, moi, de donner des conseils? Et si toi, en tant que coureur expérimenté que tu es, toi qui cours peut-être 100, 150, 200 km par semaine, je sais pas, j'en sais rien, tu m'as pas répondu là-dessus. 200 km, ça me paraît beaucoup, mais peut-être tu fais de l'ultra trail, peut-être tu fais des grandes distances. Et alors, tu vas chercher des informations ailleurs. Il y a d'autres podcasts sur la course à pied qui existent, il y a d'autres conseils, il y a d'autres personnes, il y a des coachs, il y a plein de gens qui vont t'aider à faire ça. Mais en fait, le truc, c'est que s'il y avait que des podcasts pour des gens comme toi, Nico, qui court beaucoup, qui cherche des conseils de pro, qui cherche des conseils pour aller très loin, pour faire de l'ultra trail, pour faire du marathon en 2 heures, en 3 heures, ou en 2h15, ou en 2h20. Il y a plein de gens qui n'auraient pas d'informations. Il y a des gens qui n'arrivent pas à courir et pour qui se dire courir même 10 kilomètres, ça semble un truc insurmontable. Et donc, quand tu me mets ce genre de message-là, eh ben tu me dis oui, voilà, tu valides le truc. Je ne m'adresse pas à toi en fait. Tu comprends le truc? C'est je m'adresse pas à toi. Tu peux penser que je suis un influenceur de pacotille, que je suis un coureur de pacotille. Tu peux penser que finalement mes conseils ne t'intéressent pas, que je suis désordonné dans mon entraînement parce que c'est ce que tu m'as dit, que je me cherche, que je veux faire ça, etc. Mais dans la réalité en fait, c'est quoi mon histoire? Mon histoire c'est que j'étais un mec qui faisait 105 kilos il y a quelques années et qu'aujourd'hui j'en fais 80 et que c'est en partie grâce à l'alimentation, en partie grâce au sport. Et que dans ma tête, il y a un truc qui a changé. Et que ce qui a changé, en fait, c'est de me dire, je trouve la voie vers laquelle je veux aller et je veux partager ça. Et ça, c'est un truc qui est vraiment super intéressant, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est une discussion qu'on a eu avec ma femme, il y a les coureurs qui sont dans leur coin comme ça, qui veulent rien partager, ils sont là-dedans, dans leurs petits trucs, dans leurs astuces, etc. Ils sont dans leur monde à eux, ils sont enfermés dans leurs trucs à eux. Et puis, il y a des coureurs comme moi, on n'est pas les plus rapides, mais on a envie de partager nos conseils, on a envie de partager nos astuces, on a envie d'aider les autres. Moi, il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me disent « Ouais, t'as couru ce truc-là, mais comment t'as fait? T'as un conseil pour courir ça ?» Juste derrière mon marathon, il y a des gens qui me disent « Oh là là, moi aussi j'aimerais bien courir, mais ça me semble insurmontable. » Il y a des gens au club, par exemple, qui n'ont jamais couru de marathon. J'ai en tête une fille, par exemple, qui ne faisait que des 10 km. Et le moment où elle doit allonger les distances, et pourtant ça fait 20 ans peut-être qu'elle court cette fille-là, elle est beaucoup plus rapide que moi sur des courtes distances, etc. Mais le moment où elle doit aller, ne serait-ce que s'aligner sur un semi-marathon, ça lui fait peur. De ce truc-là. Et donc, derrière, elle a besoin de quoi comme conseil? Elle a pas besoin d'avoir le conseil d'un mec qui a fait 50 semi-marathons et 30 marathons et qui va lui dire, ouais, t'inquiète pas, ça va passer crème, etc. et tout. Non, elle a besoin du conseil de quelqu'un qui va dire, ouais, attends, sur mon premier marathon, j'ai fait ça, sur mon premier semi, j'ai fait ça, fais attention, etc. Parce que c'est encore frais dans notre tête. On l'a encore, tu vois, c'est gravé dans notre tête, ce truc-là. Et en fait, je ne vais pas aider les multimarathoniens, les ultra-trailers, ceux qui courent depuis leur enfance. Je vais pas aider non plus ceux qui ont le jeu de la plus grosse, la plus belle montre, les plus beaux manchons de compression, etc. Parce que je l'ai vu, j'ai participé à une course à Paris, qui s'appelait, à l'époque, ça s'appelait 10 km l'équipe. J'étais dans un sas, c'est quoi le sas, 44 minutes. Les mecs, ils se regardaient comme des pros. Et le temps qu'on parte, le premier était déjà arrivé, quoi. Et donc, les gars, ils sont dans un sas de 44 minutes, on a l'impression que c'était les stars du running. Et je m'adresse pas à ceux-là, moi. Je m'adresse pas à ceux-là, ça m'intéresse pas. Moi, dans ce podcast, j'ai jamais utilisé le mot d'athlète. Jamais. Et j'ai fait un podcast dans lequel j'ai dit je me vois pas comme un athlète, je peux pas me voir comme un athlète, je me vois pas comme un athlète, je me vois comme quelqu'un qui veut bouger, qui veut trouver son équilibre dans le sport et qui veut le partager, qui documente finalement ce parcours-là. Kilomètre 42, c'est quoi ? Kilomètre 42, c'était une référence au marathon, bien sûr, la distance qui me semblait impossible à faire. C'était le défi de courir un marathon. C'est le défi de courir un marathon pour mes 42 ans. Donc le 42 de kilomètre 42, c'est aussi mes 42 ans. C'est aussi le moment où j'ai commencé à courir sérieusement. Donc le 42, c'est le marqueur aussi de mon âge, dans lequel je considère que je me suis mis à vraiment courir avec sérieux. Et donc, dans cette histoire-là, en fait, il y a un point de fracture. Il y a un point de fracture entre ceux pour qui... ils vont chercher la performance, les grandes courses, les grands trails, etc. Et puis, il y a tous ceux qui débutent. Il y a tous ceux qui courent pour le plaisir. Il y a tous ceux qui cherchent à courir, à progresser un petit peu. Il y a ceux pour qui s'inscrire sur un premier cours, sur un premier dossard, c'est compliqué. Il y a ceux pour qui il y a 20 kilos trop, il y a 30 kilos trop. Il y a ceux pour qui ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Il y a ceux pour qui ils ne peuvent que courir qu'une fois ou deux fois par semaine, mais ils cherchent quand même à progresser. Il y a ceux pour qui ne serait-ce que savoir quelle paire de chaussures faut acheter, ce qu'il faut à tel endroit, etc. Ce qui me fait une référence aussi, tu vas pas acheter des chaussures de running chez Decathlon. Et alors, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, je vois des mecs, et j'ai vu encore le gars dont je parlais là, qui est super rapide. Quand je regarde ce qu'il a au pied, il y a des fois, il court en Decathlon. Parce qu'il y a des chaussures, peut-être chez Decathlon, qui sont peut-être adaptées à son pied. Et alors, chacun sa manière de courir. Et en fait, c'est pourquoi le Hamsters Running Club. Et je vais vraiment le développer, etc. C'est que en fait, c'est dans les groupes Facebook, par exemple sur le running, il y a un truc qui est fréquent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, donc il y a des groupes qui s'appellent Marathonien, KM42 Marathon, je sais pas quoi. Il y a des groupes de ce type-là qui existent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent là-dedans, qui commencent à courir, qui veulent faire un marathon, qui viennent demander des conseils. Et puis, il y a un mec qui vient, qui leur dit, ouais, attends, t'as fait que 10 km et t'espères courir un marathon un jour. Mais attends, tu rêves, mon petit. Tu cours, t'as couru à 6 minutes du kilomètre. Mais attends, tu rêves, tu veux jamais arriver à faire ça. Merde, quoi. Enfin, voilà, j'avais envie de le dire. Il y a un moment donné, quand on est dans ces groupes-là, ça décourage. Et il y a des gens qui, au bout d'un moment, finissent par leur dire, mais arrêtez, quoi, arrêtez. Il a juste demandé un conseil. Si vous êtes des bons coureurs, si vous êtes des super bons coureurs, eh ben, donnez des conseils plutôt que de critiquer, plutôt que de dire, ah, ça marchera pas, tu n'y arriveras pas, c'est pas bon et tout. Non, au lieu de dire, tu n'y arriveras pas, tu dis, tu devrais faire ça à la place. C'est ça. J'ai envie de dire, tu devrais faire ça. Et le mot important, c'est la bienveillance. Et le Hamsters Running Club, la communauté que je suis en train de monter, c'est ça. C'est de dire, il y a un mot qui va être important dedans, c'est la bienveillance. C'est de dire, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de jugement. C'est, tu viens avec ton poids, ton histoire, le temps que tu as, l'objectif que tu as. Au début, ben oui, courir 10 km, c'est peut-être, ça te semble peut-être insurmontable. Courir 13 km, mon premier trail de 13 km, ça me semblait être un truc insurmontable. J'ai raconté l'histoire. Je le dis souvent, mais j'ai dit à l'organisateur, il passe près de la maison, il dit, je suis pas sûr de le faire, d'arriver au bout, je m'arrêterai peut-être à la maison. Il me dit, mais si, ça va le faire. Et là, heureusement qu'il me dit, mais si, ça va le faire. Il avait intérêt à me le dire s'il voulait me vendre dans son dossard. Mais en fait, après, je l'ai recroisé, j'ai couru un jour avec lui et tout, dans le club dans lequel il était. Et je sais pourquoi il dit ça. Parce qu'il est dans la bienveillance. Il dit, oui, ça va le faire. Tu en es capable. Tu sais que ça va le faire. Et moi, c'est ce que j'ai envie de partager. Oui, nous en sommes capables. Et c'est pas avec ce genre de message de dire, ah bah oui, alors attends, il y a des mecs qui sont beaucoup plus expérimentés que toi. Eux, ils vont donner des conseils qui sont intéressants. Si tu as besoin de ces gens-là, va chez ces gens-là. Si tu as besoin d'aller chez un mec, un podcast qui est fait par un entraîneur diplômés, par des mecs qui ont fait les championnats de France, par des gars qui font du ultra trail, par des gars qui ne jurent que par des distances, qui font 50 ou 60 bornes, par des gens qui font 100 bornes par semaine et qu'en dessous ils trouvent que c'est pas assez ou quoi que ce soit, va chez eux, va écouter leurs conseils, va prendre du coaching chez eux. C'est eux qui vont t'aider à progresser, c'est pas moi. Et là je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, en fait, garde-le pour toi. Voilà, garde-le pour toi. J'ai envie de te dire un truc, la bienveillance c'est ça. C'est-à-dire que je te remercie pour ton message, mais tu vois le message, là où t'es super intéressant, c'est que tu me donnes un conseil pour m'améliorer. Juste un conseil pour m'améliorer, puisque tu penses que finalement je cours pas assez, que 44 km c'est pas assez dans la semaine, etc. Juste un conseil. Tu vois, au lieu de dire je te suis mais parce que j'ai envie de voir ce que tu vas faire comme connerie ou je sais pas quoi, c'était un peu le sens d'un des messages que tu m'as envoyé ensuite, et ben j'ai envie de dire non, partage. Dis ce que tu fais, donne des conseils aux gens, aide-les à faire la même chose que toi. Si toi tu fais du ultra trail, si toi t'as fait je sais pas l'UTMB ou la diagonale des fous, j'en sais rien quoi, eh ben aide des gens qui voudraient le faire à le faire. Tout le monde un jour a débuté la course. Alors certains ne s'en rappellent pas, mais certains s'en rappellent. Certains se rappellent. Moi ce matin de décembre là, matin, je me rappelle un jour être courir et avoir pris du plaisir ce jour-là, en me disant ah mais en fait tu peux prendre du plaisir à courir. Et ça revient un petit peu à la question que j'avais juste avant de Nicolas. Non, ou de, je sais plus, ou Laurent, ou je sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi pour le mélange, mais c'est ça, la notion, le truc, c'est de dire, eh ben, si tu peux aider des gens, aide-les. Moi, je suis dans l'aide, je suis dans le partage, je suis dans le conseil, je suis là-dedans. Et le kilomètre 42, c'était la documentation de comment j'ai préparé mon premier marathon. Et il y a des gens qui ont probablement beaucoup plus appris par le fait que je me sois blessé, par ma périostite, par le fait que j'ai géré mal mes entraînements, et moi-même j'ai beaucoup plus appris que juste dire ah bah ouais j'ai couru un marathon. C'est pas ce que je raconte dedans, c'est pas ça que je raconte. Et peut-être effectivement que pour toi tu n'as pas besoin de mes conseils, mais dans ce cas-là bah tu sais c'est pas grave, il y a plein d'autres endroits où tu peux trouver des conseils. Et moi par contre ce que j'aimerais bien c'est que tu donnes tes conseils toi, que tu dises bah comment on arrive à devenir le coureur excellent que toi tu dois être probablement pour m'avoir laissé ce type de message. Et c'est ça exactement l'esprit que je voudrais retrouver, c'est de dire eh ben moi je ne veux pas ce genre de commentaires là. C'est-à-dire que même dans l'Amsterdam Running Club, quand je fais la charte de rédaction de comportement, très clairement, je veux pas retrouver les groupes Facebook. Je veux pas retrouver ce genre de truc là. Si en fait le Amsterdam Running Club, il est pas sur Facebook d'ailleurs. Il est pas sur Facebook. Il est pas à la portée de trucs à côté. C'est-à-dire que je veux pas que vous soyez dans le club en même temps en ayant un message et que quand vous en sortiez, que vous alliez retourner sur la page d'accueil de Facebook, il y a un autre message qui vienne d'un autre groupe de running où quelqu'un vous brise ou quelqu'un brise un petit peu les efforts de quelqu'un qui vous ressemble en disant ah mais attends, t'as couru que 10 km, si tu veux préparer un marathon, faudrait que t'en fasses 50 ou 60 de plus aujourd'hui quoi. Non. Non, je veux pas ça. Donc c'est un espace privé, sain, sûr, sécurisé, dans lequel en fait il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. Et de l'amour, en fait, c'est con, hein, mais quand t'es bienveillant avec les autres, c'est difficile en fait de se demander si t'es bienveillant avec toi. Et donc ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes, qu'on s'autorise à se dire un jour je peux être fatigué, un jour oui je vais me mettre vraiment à fond là-dedans, etc. Je vais courir à fond là-dedans, j'ai un gros objectif, je vais me foutre on pourrait dire la race certains, mais on va pas dire ça, mais voyez, je vais me foutre minable, etc. Et bon, demain après je m'autoriserai à courir plus lentement. Et si moi je le fais, si moi je le ressens comme ça, si je comprends comment je fonctionne, et ben c'est normal qu'à côté quelqu'un le ressente. Et je me rappelle quand j'ai débuté, ben courir 5 km ça me semble semble insurmontable, eh ben oui, je me mets à la place de la personne. Ça s'appelle de l'empathie. Oui, je sais ce que ça fait de courir avec 20 kilos de trop. Oui, je sais ce que ça fait de devoir courir tôt le matin parce que sinon on n'a pas le temps de le placer dans sa journée. Quand j'ai préparé Albi cet hiver, même si j'ai pas pu arriver jusqu'au bout, il y a des dimanches matins, j'allais courir à 5h pour faire une sortie longue de 2h15 parce que je devais être à la maison à 7h, 7h15, 7h30 pour que ma femme puisse aller faire sa formation. Et en fait, on a tous nos parcours, on a tous les choses comme ça. Quelqu'un m'a envoyé un message l'autre jour, il m'a dit, moi je peux courir que deux fois par semaine, hein, ça fait pas tant que ça. Thibaut, la semaine dernière, quand on parlait, il peut pas s'entraîner plus de trois fois par semaine, pourtant il peut préparer des courses, des distances qui font 70, 80 km et il arrive à le faire. Voilà, c'est ça en fait la réalité des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de coureurs, on est plein de types de coureurs, et moi, je m'adresse pas à tous les coureurs, je m'adresse à des gens qui ont tout simplement besoin de conseils pour progresser. Et peut-être qu'au bout d'un moment, en fait, vous y trouverez plus votre compte dans ce que je vous raconte et que vous passerez à l'étape suivante. Moi-même, dans mon état dans lequel je suis trop avancé pour certains, voilà, et c'est pour ça que des fois, je me rappelle aussi de l'esprit du débutant et que je veux mixer cet esprit-là, se rappeler de ce que c'est que d'être un débutant, se rappeler de ce que c'est de courir en étant en surpoids, se rappeler de ce que c'est de lutter contre le sucre, se rappeler de ce que c'est de se demander la veille de la course quelles chaussettes je vais prendre, ce que c'est que de se rappeler finalement de bah je sais pas quoi manger, les questions que j'ai eues aujourd'hui hein sur finalement quoi manger, comment se préparer, comment arriver à courir 5 km, ça représente vraiment la cible, l'esprit du podcast, l'esprit du Hamster Zoning Club, ça représente aussi l'esprit que je veux partager, c'est-à-dire que en fait on est tous des coureurs. Le coureur, c'est celui qui court. C'est pas celui qui court le 10 km en moins de 40 minutes. C'est pas celui qui court le 5 km en 18 minutes, etc. C'est pas celui qui a fait 10 marathons. C'est pas celui qui fait de l'ultra trail. C'est pas celui qui court 4 fois par jour. C'est pas celui qui fait 100 bandes par semaine. C'est pas celui qui mange, qui fait tous ses repas en prévision de tel ou tel truc. Non, le coureur, c'est celui qui enfile ses baskets et qui court. Et en fait, en ça, nous sommes tous des coureurs. Alors nous sommes tous des coureurs différents. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des maigres, il y en a des rapides, il y en a des lents, etc. Mais en fait, le point qui est pour moi le plus important, c'est qu'on ait envie de partager le fait qu'on se sente bien quand on va courir et que ça nous apporte quelque chose de bien dans notre tête, dans notre corps, dans notre vie, que ça nous permet de construire quelque chose. Et donc, vraiment, c'est ce que je voudrais partager. Et je voulais vraiment finir sur ce message-là, parce que pour moi c'est tout l'esprit de Kilomètre 42, pour moi c'est tout l'esprit du Hamster Running Club. Et en fait, eh ben peut-être que tout le monde s'y retrouve pas dedans, mais c'est pas grave. Voilà, il y a d'autres podcasts qui existent, il y a des chaînes YouTube qui existent, qui sont centrées là-dessus, qui sont centrées sur la performance, sur l'ultra performance, j'ai envie de dire. Sur quelqu'un m'a laissé un message, m'a dit, il y a en fait les pros, ça représente quoi, 2% vraiment de trucs. Et s'accrocher à ce rêve là de dire, il y a pas que l'ultra performance dans cette histoire-là. Rappelez-vous l'épisode avec Cécile Bertin, quoi. Cécile Bertin a dit j'ai gagné une course par erreur, hein, mais en fait elle a fait par le nombre 40 marathons, des ultra marathons, etc. Et pourtant un jour elle courait pas. Un jour elle a débuté. Et si un jour quelqu'un lui a dit quand elle commence à débuter, il dit ah mais toi tu n'y arriveras jamais, et qu'elle avait écouté cette personne qui dit toi tu n'y arriveras jamais ou toi tes conseils sont pas intéressants, etc. Est-ce qu'elle aurait fait tout le reste? Est-ce qu'elle aurait fait tout le reste? Quel sera le coureur que je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que je serai comme coureur à 50 ans? Personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, ce que je partage ici, c'est ma passion, c'est d'essayer de vous aider et de me dire que vous aussi, comme ça, bah moi le chemin, il me prend du temps, il y a des trucs qui me sont semblés compliqués, etc. Et si je peux vous les faciliter en essayant de vous les expliquer avec la pédagogie, avec de la bienveillance, avec de la bonne humeur, avec mes histoires, avec des invités que je fais venir, qui racontent aussi leurs expériences, des gens qui sont plus expérimentés, et même des gens, j'espère même d'avoir des pros, ouais, qui viennent donner leurs conseils, les marques aussi, etc. C'est pour que on progresse et pour que quelqu'un qui veuille courir, que ça soit quelle que soit la distance à laquelle il vise, et ben en fait, il arrive à progresser. Et voilà, c'est ça l'esprit de Kilomètre 42 et c'est ça aussi l'esprit de mon compte Instagram @BertrandSoulier et c'est ça aussi l'esprit du Hamster Running Club qui est en train de se créer. Si tout ça vous intéresse, et ben vous êtes au bon endroit. Merci à tous pour vos messages, merci à tous pour vos questions, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos j'aime, pour ceux qui viennent soutenir sur Patreon, pour ceux qui vont venir soutenir par le Hamster Running Club, pour ceux qui vont venir apporter leurs conseils, leur bonne humeur, pour ceux qui viendront prendre de l'information et qui parfois viendront donner aussi des conseils. Merci à tous et on est tous ensemble, on est tous des coureurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les coureurs!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.